Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule qui était de... Il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pêcheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En quoi est-il fils d'Abraham? Parce qu'il est juif, génétiquement peut-être, c'est pas ça. Si vous prenez Genèse chapitre 12, nous aussi en principe, par la foi, nous venons fils d'Abraham. Hein. Donc c'est un héritage spirituel, c'est pas génétique. Et donc... Genèse chapitre 12, c'est Abraham qui quitte le sud de l'Irak, et puis de Ur en Chaldée. Dans les fouilles archéologiques du Moyen-Orient, on voit que beaucoup de foules, de peuplades, sont parties vers le pays de Chinéar. Il était riche. Nous, on habite un coin, là, près du Luxembourg, il y a plein de banques, plein d'argent, et beaucoup de gens de partout, de France, de partout, d'Allemagne, viennent loger, achètent des maisons dans les petits villages, et parce qu'ils travaillent là, pour gérer l'argent sale du monde qui arrive au Luxembourg. Mais pratiquement, ils ont des bonnes payes, 5, 6 000, 8 000 euros par... Et puis les artisans, les ouvriers, un plombier par exemple, il aura vite 3 000 euros par mois. Hein? Il y a des indépendants qui gagnent plus. Donc pratiquement, ça attire l'argent. Et donc c'est ça qui a attiré les populations vers le sud de l'Irak. C'était extrêmement prospère. À cette époque-là, tout était vert, il y avait des canaux entre le Tigre et l'Euphrate, il y avait beaucoup de navigation partout, dans les deux fleuves et dans le golfe le Persique. C'était un lieu économique et un lieu de prospérité, mais plein de paganisme, plein de mauvaises choses au niveau religieux et spirituel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Donc, va-t'en et quitte toutes les racines qui sont dans ton âme, renonce-y. Tous les dépôts qu'on t'a mis dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, je vais t'en décaper. Je vais briser tout ça. Je vais tout nettoyer. Un peu comme l'apôtre Paul quand il a connu Christ. Il a regardé tout ça comme de la boue. Abraham, son cœur a été remélangé, remalaxé, comme un vase que le potier recommence. Hein? Et il y a consenti, bien sûr. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est clairement une ordonnance de Dieu qui a décidé, depuis toujours d'ailleurs, mais qui l'exprime à Abraham, que toutes les nations seront bénies dans la foi. Dans la foi au Christ, bien sûr, qui est la postérité d'Abraham. Vous allez voir dans Galates, c'est clairement expliqué que la postérité, la descendance d'Abraham, c'est Christ. Et ceux qui croient en Christ. Alors, ici, nous voyons bien que Zachée, nous retournons à Luc, Zachée est devenu enfant d'Abraham, par la foi. Alors, c'est un homme tordu qui fait des affaires, qui perçoit des impôts et qui en met dans sa poche, qui est détesté de tout le monde. Et il monte dans un arbre qui n'est pas sympathique, hein, parce que si vous allez en Israël et que vous voyez des sycomores, essayez de monter dedans, vous allez voir. Hein. Ça pique. Hein. Alors, pratiquement, Jésus le voit, parce que Jésus savait qu'il serait là, comme Nathanaël sous le figuier, quand Jésus passe quelque part. Il a déjà tout vu avant et après. Hein. Donc considérez que quand Jésus vous voit, aujourd'hui, hier et demain, il faut vivre en fonction de ce regard-là, n'est-ce pas? Ne soyons pas ignorants de l'autorité du Seigneur Jésus dans nos vies. Et accordons-lui toute la place à cette autorité du Seigneur. Et c'est ce que Zachée va faire. Il va laisser l'autorité du Seigneur Jésus le gagner. Et toute l'autorité de l'argent, des tromperies, des tricheries, des convoitises à la chair va basculer dans le vide. Ça montre la puissance de Christ. La puissance de Christ qui lave un cœur. La puissance de Christ qui brise le péché. Comme le brigand sur la croix, comme le centurion romain. Alors, il s'engage à un changement de vie et une réparation dans tout ce qu'il peut réparer. On a eu un jour un homme qui avait été à Crise de Montfavet, au sud de la France, et qui, là où il y a Vaison la Romaine qui était dévastée par l'eau, juste au-dessus de la colline, Georges Roux se fait appeler le Christ de Montfavet. Et il a une secte là, et un homme assez riche de Belgique, qui avait perdu 1,5 million d'euros le même jour en jouant à la bourse, se retrouvait plus riche que nous, mais beaucoup plus pauvre qu'il est, que ce qu'il avait été riche. Et donc, il avait perdu un peu la tête, il avait quitté sa femme et les enfants, et il était là-bas. Et après bien des égarements, il arrive, il vit dans une maison, dans la forêt, chez nous, sans fenêtre, sans porte, et un chrétien de l'église l'apprend, il va le chercher, il va l'aider. Après, on a été lui mettre une porte, des fenêtres, il va achever son carrelage, parce que la neige rentrait dans la maison, avec le vent et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué la façon dont il priait était complètement diabolique, mensongère. Et alors, pratiquement, je lui ai donné une photocopie de tous les écrits de M. Kremer, un vieux pasteur, sur les ruses de Satan. Je l'ai confié à quelqu'un ici, d'ailleurs. Les ruses de Satan, à vous, hein. Parce que vous avez quelqu'un là qui se dit ancien dans l'église, hein. Il faudra lui faire lire à cet ancien-là. Qu'il sache de quel côté il est, avec Christ ou avec le diable. C'est pas tout s'appeler ancien. Alors, si réellement il le lit jusqu'au bout, ou il s'effondre et il confesse son péché devant tout le monde à l'église, ou je ne sais pas ce qui se passe, moi. Hein. C'est Dieu qui l'arrêtera autrement. Alors, pratiquement, cet homme-là, quand il l'a reçu, je l'ai laissé 3 jours pour l'été visiter. J'ai prié avant d'y aller, il explosait de rage. Il hurlait. Et puis, je m'assieds, et moi je priais en silence, je priais pour que le Seigneur fasse son œuvre, achève ce qu'il avait commencé. Il s'est mis à pleurer, puis il s'est converti. Et après, il m'a dit, voilà toutes les affaires trompeuses que j'ai fait avec des tas d'autres, mais des tordus. Enfin, tout le monde est tordu de toute façon, mais ce qu'il y a, c'était vraiment des spécialistes. Au niveau de l'argent, de tout, des armes. Et donc, il me demande d'aller voir un homme, et j'ai dit, non, je n'y vais pas tant que le Seigneur ne me le demande pas. Donc, 1 an et demi après, j'étais au milieu de la nuit en train de lire ma Bible et de prier. Et puis, vraiment, j'avais l'injonction d'y aller. Et que cet homme était en train de mourir, et que je devais faire vite, et que ma responsabilité était grave, parce que si j'arrivais et qu'il se donnait à Christ, il le servirait, et autrement, il va en enfer. J'avais la paix, hein. J'avais la paix en recevant cette injonction dans mon cœur. Donc au matin, je téléphone, et je dis, Joseph, eh bien, je voudrais aller voir ton ancien copain, eh bien, on y va. Il dit, je suis d'accord. Et je te dis, il est gravement malade. Tu peux téléphoner aux hôpitaux, ça sera plus vite fait. Il y avait 3 hôpitaux, il a trouvé. Un quart d'heure après, il me dit, il fait son 3e infarctus. Il est à tel hôpital. Si tu veux, je veux bien aller avec toi. Donc, une demi-heure après, on partait. Et nous sommes arrivés là et j'ai pu trouver cet homme. Tout le monde était dans un état de délabrement aux urgences incroyable. J'ai dit, écoute, André, le Seigneur me demande de venir te parler pour que tu reçoives le pardon de ses péchés, si tu le demandes, et si tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux vivre ? Non, je veux crever. Carrément. Je dis, vous n'imaginez pas ce que j'ai fait. J'ai assassiné des gens et tout, j'avais le droit de vie et de mort sur les hommes de Kadhafi, j'ai vendu des tas d'armes et tout, des avions entiers. Et j'ai été à la guerre au Tchad contre les Français. J'ai des rivières de sang au bout des mains qui coulent pour des siècles. Alors j'ai demandé, il y a 9 mois de ça, je suis rentré dans l'église, j'ai dit, je suis incapable de changer, je suis trop lâche. Alors j'ai demandé à Dieu, fais-moi crever. Le mot, hein, il a dit comme ça. Je dis, tu méprises ta vie et tu crois que Dieu est une crapule comme toi. Tu le vois à ton image. Mais moi, je vais te dire qu'il n'est pas comme toi. Il aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Comment ça? Comment ça? On ne m'a jamais dit ça. Alors, j'ai pris, on va dans Luc, avec le récit de la croix, les amis. On ne m'a jamais dit ça. Luc, chapitre 23. Luc 23, verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Et puis on a le récit de la moquerie, bien sûr, qui correspond au psaume 22. Le peuple se tenait là, regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Si vous regardez Matthieu et Marc, vous voyez que les deux malfaiteurs, à 9h du matin jusqu'à midi, l'insultaient. Donc c'est quelqu'un, un des deux, a changé d'attitude complètement, et au milieu de son parcours vers la mort, il reconnaît la justice de Christ. Il reconnaît, et ce n'est pas marqué spécialement, je vous l'ai vu, il voit son regard, il entend les paroles de Jésus, pardonne-leur, etc. Il voit son amour, il voit l'amour de Christ pour eux, qui les regarde certainement. Il ressent la présence et il la reconnaît du Fils de Dieu. Et ce qu'il y a, là, il reconnaît qu'il mérite la mort pour ses sanctions, mais pas le Christ. Le Christ ne mérite pas la mort. Alors il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il sait que le Christ, même s'il meurt avec eux, continue son chemin. Qu'il est autre chose qu'un mortel. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Il y a eu une révélation dans son âme, dans son cœur. Et il n'a pas eu des heures d'études bibliques. Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quand j'ai lu ce texte, cet homme-là dans son lit, couvert de fils et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connaissais pas ça. Mais je dis, regarde, Jésus a le pouvoir de te pardonner péché. Il l'a fait. Un bandit. Alors, pourquoi tu voudrais mourir? Dieu veut bien de toi, mais pas de ton péché. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié avec lui. Et puis après, quand il a dit Amen, j'ai dit, maintenant, sache bien que j'ai déjà prié avec des tas d'autres qui donnent leur vie à Jésus. Mais après coup, j'ai eu des surprises. Parce qu'ils n'ont rien changé dans leur vie, rien n'est changé, et ils n'étaient pas vraiment enfants de Dieu. Alors je vais te le dire, si réellement tu as prié sincèrement, tu as accepté le pardon de Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es capable d'obéir et tu veux obéir. Et tu veux mettre en pratique ce que Jésus te demande. Alors, je lui dis, écoute, la jeune fille qui est là, en mini-jupe dans le corridor, c'est ta maîtresse. C'est fini. Ta femme, elle est toute seule depuis 18 ans avec ta fille. Tu retournes vivre avec. D'accord. C'est ce qu'il a fait. Il est revenu me voir plus tard. Il était toujours avec sa femme et sa fille. La deuxième chose. Et tout l'argent que tu as gagné. Ah ça, pasteur, c'est spécial. Oui, tu fais du trafic d'armes, tu as gagné des millions. Tu as fait une société immobilière, tu faisais des mauvaises maisons, tu fais signer les gens, et tu passais à la frontière avec des armes, les douaniers, les gendarmes ne t'arrêtaient pas. Comment ça se fait? Alors il sort de sa carte, une carte comme ça, donc, on m'a donné ça dans une secte, et quand j'arrive pas loin des gendarmes, je demande à Satan de changer leur pensée. Tout le monde est arrêté, sauf moi, ils me font des sourires. Et quand je vends des maisons pourries aux autres, ben, ils ne veulent pas signer les gens. Eh bien, moi, je vais à la toilette, je prononce leur nom, je demande à Satan de changer leur esprit. Et après ça, ils signent. Et ton casier judiciaire, ben, il est vierge. Les pouvoirs sataniques de cet homme étaient très grands. Tu me donnes la carte, je la prends, c'est comme s'il y avait des milliers de fourmis, je vais dehors, je brûle au nom de Jésus, elle se tord, je la tape dans l'égout, je reviens. Alors, j'avais prié le Seigneur en cours de route, j'avais 160 km pour aller le voir, et je dis, Seigneur, quel texte? Où est la parole qui peut le toucher? Alors, tout d'un coup, j'avais compris, Zachée. J'ai lu ce texte de Zachée à cet homme-là, et effectivement, il n'a plus affaire, fait d'affaires de magouilles, de choses véreuses, il n'avait plus rien. Son père l'a renié, sa mère l'a renié, la mère était chef d'une secte, elle l'a renié, le soir même, sans qu'il les informe. Eux, les deux, étaient informés par Satan. Et le père avait vendu tous les stocks d'armes pour partir avec une autre maîtresse, et hop, pas d'argent pour lui. Les poches vides. Et le docteur n'a jamais voulu admettre que cet homme était guéri, il lui a laissé une pension d'handicapé. Mais cet homme était guéri. Rappelez-vous Louis Pelzer.
Oui.
Louis Pelzer, le médecin, n'a jamais accepté qu'il soit guéri.
Oui, c'est vrai.
Il touche la pension d'handicapé, et il sert le Seigneur depuis 25 ans. Imaginez les contradictions qu'il y a sur la terre entre l'esprit du monde et l'esprit de Christ. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut se faire? Je vous donne ça comme exemple, parce que je ne suis pas plus que vous. Hein. Je ne m'estime pas plus que vous, monsieur le pasteur et tout ça. Je ne suis pas plus que vous. Pratiquement, c'est pour vous servir que je suis là. Pratiquement. Quand vous priez, demandez à Dieu ce qu'il faut faire pour lui, si vous l'aimez. Restez pas chrétien pour vous-même, ou pour rien qu'avoir la place au ciel. Ça, c'est pas le plan de Dieu, les amis. C'est de la fumisterie, ça. Ok ? Alors, Colossiens 3, 1, 3. Colossiens. Un chrétien pour soi. Le diable est content, vous savez ça, avec ça. Une église pour elle-même. Oh, qu'est-ce qu'il est content. Ne lui faisons pas de cadeau, il ne le mérite pas, Satan. Il fait trop de mal. Servons Christ. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, on va en reparler après, dans les jours qui suivent. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort. Ça aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. On en reparlera. C'est ça la clé, hein. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand vous vous mettez en Christ, réellement, que c'est votre Seigneur et votre Maître, c'est votre amour, c'est votre ami, c'est votre frère, c'est votre Maître, et que vous lui dites dans la prière, avec foi, avec amour, avec sincérité, que vous lui répétez tous les jours, vous ne croyez pas qu'il ne peut pas vous embarquer dans une vie de service? Il n'y a pas de chrétien inutile. C'est selon le degré de votre amour. Simplement. Plus vous aimez le Christ, plus vous l'aimerez. Dans un couple, quand un homme et une femme s'aiment, ils prennent l'habitude de vivre ensemble, boum, l'amour, boum, on se demande après où il est. Hein? Chacun joue son rôle, etc. Deux engrenages dans un grand réveil. Bon. Mais s'il y a réellement de l'amour, dans l'amour, on cherche toujours à rencontrer l'autre. On cherche toujours à le découvrir. On cherche toujours à admirer quelque chose chez l'autre. On aime, on admire quelque chose qui est unique chez l'autre et qui n'est pas en soi. C'est l'admiration, c'est l'émerveillement qui entretient l'amour. Et pour ça, il ne faut pas être égoïste. C'est la même chose avec Christ. Un chrétien centré sur lui-même ne peut pas admirer le Christ et s'émerveiller de lui. Donc, quand on a l'assurance du salut, les amis, chez les évangéliques, c'est pas pour s'auto-centrer. Ça y est, je suis bien équipé, j'ai mon armure, le bouclier, tout le bazar. Il ne pourrait rien m'arriver. Mais si dans l'armure, ce n'est pas un vivant, C'est un mort qui se croit chrétien. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour être en Dieu, il faut être caché en Christ. Il faut être en Christ. C'est une loi divine. Une loi divine. Caché, c'est pas mis sur un piédestal. C'est pas mis pour faire le malin, pour faire la gloire. C'est pour ça que c'est mis caché. C'est le contraire des fausses gloires. Regardez bien Jésus. Quand en Jean chapitre 13, il lave les pieds de ses disciples. Il ne l'a pas fait pour que tout le monde aille lui mettre des congratulations. Il n'est pas venu aux Champs-Élysées après. Il n'est pas passé à la télévision. Il a lavé les pieds, il a dit « Vous ferez de même entre vous ». Ça, c'est la vie cachée. Vous savez qu'un chrétien, souvent, généralement, il travaille dans l'ombre. Il travaille, c'est caché ce qu'il fait. Ce qu'on peut voir quand ça se manifeste par des paroles ou quelque chose de public, ça doit être le centième ou le vingtième. Tout le reste est caché. C'est tous les jours, dans les petits détails. Si on est fidèle dans les petites choses, ça indique bien que nous sommes fidèles dans les grandes. Ok ? C'est extrêmement important, les amis. Extrêmement important. L'absolue cachette de Dieu, c'est Golgotha et sa croix. Dieu ne veut pas de la gloire des hommes. Dieu ne veut pas de tous ces diplômes, de toutes ces médailles, de toutes ces fanfares humaines pour lui. L'absolue cachette de Dieu, c'est Golgotha. Vous avez été à Jérusalem, au Garden Temple, si tout d'un coup vous voyez le rocher et le crâne, hein, et vous imaginez que c'était l'endroit le plus horrible de la région, ignoré de tout le monde, détesté de tout le monde, où ça faisait vomir d'y aller. Parce que les gens qui étaient là-dedans et qui mouraient sur la croix, qui hurlaient des journées, après on les tapait en tas comme ça, aux corbeaux, aux renards, aux chiens, à tout. L'absolu cachette de Dieu, c'est le Golgotha et sa croix. Voulez-vous connaître Jésus ? Vous devez connaître la croix. Vous devez connaître le Golgotha de Jésus. Le baron Zinzendorf, un très riche marquis de Tchécoslovaquie, de Bohème, il se promenait, c'est un coureur de femmes, il avait beaucoup d'argent, et 16e, 17e siècle, je ne sais plus, et pratiquement, il est dans une grande cathédrale, une immense peinture, on voit le Christ qui regarde, et il y a une phrase en allemand qui dit « Regarde ce que j'ai fait pour toi, et puis, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Mais, ce jour-là, le marquis Zinzendorf, il y a une petite cigane à côté qui ne sait pas lire qui vient. « Dis, monsieur, qu'est-ce que Jésus a dit ?» Et la petite fille, elle veut savoir, elle. Alors le marquis lui dit, « Ben voilà, regarde ce que j'ai fait pour toi, hein, sur la croix, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» C'est pour ça que je demande à cinq de parler, hein, à tour de rôle. Tous les trois, sur qui reste. Alors pratiquement... Il dit ça à la petite, et la petite le regarde. Il dit, toi, monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour Jésus ? Il a ramassé sa piqûre ce jour-là. Il est rentré, il s'est converti. Alors, il a accueilli dans ses propriétés tous les chrétiens persécutés. De Bohème, de partout, des milliers. Et il a partagé, il a les amis sur toutes ces terres, et c'est de là le réveil des frères moraves. Les frères moraves, les sociétés des frères moraves. Parce que ce bonhomme-là, tout d'un coup, elle met tout à son service. Tout à l'heure, quelqu'un me dit, je ne vois pas comment j'aurai la force de me mettre complètement au service du Seigneur. Je ne vois pas, je suis trop limité. Mais tant mieux que tu es limité. Mais Jésus n'est pas limité. Ma parole, c'est sur Jésus qu'on se repose, c'est pas sur soi-même. Alors, ce qui s'est passé, hein. Mais ça a tombé par terre. C'est avec tous ces gens-là, ces milliers de gens qui étaient là, qui souffraient des persécutions, qui étaient chez lui heureux. Hein. Nous, c'est un petit peu ça, à petite échelle, chez nous, avec tous les réfugiés. On a été jusqu'à 35 dans ma maison, parfois c'était 15-20. Sans un franc, on faisait le jardin et tout, on les accueillait, on leur apprenait à connaître le Seigneur de tous les pays. On a fait ça très longtemps. Alors, gagner le paradis, simplement parce qu'on aime le Seigneur, que le Seigneur les aime. Alors, tout d'un coup, ils ont trouvé la clé. Ils ont décidé d'un jeûne continuel par équipe et de prière, de 100 ans. Ils sont engagés, tous ces gens-là, à faire un jeûne et une prière tournante de 100 ans. Tiens. Et vous croyez que ça donnait des frères moraves à travers la Pologne, à travers tout le Danube, en Ukraine et partout.
Les Indiens d'Amérique.
Comment ?
Ils ont été prêchés chez les Indiens d'Amérique.
Les Indiens d'Amérique. Et ceux-là n'ont pas tiré dessus. Alors, pratiquement, comme David, quand pour devenir un grand roi, il a été tout seul avec les moutons, tout seul avec son Dieu, contre les lions et les ours. Dans la solitude, on apprend le combat. C'est très bien en Église de s'aimer tous, de se faire des bisous, de s'aider. C'est une règle. Il faut s'aimer, il faut se pardonner, il faut être ensemble. Mais il doit y avoir le recto, le verso de la pièce. La solitude avec Dieu. Le vrai combat. Où on perd toutes ses plumes, il n'y a plus que le Seigneur après, dans notre vie. Et c'est ça que le marquis Zinzendorf et tous les autres avaient compris. On va tout remettre à Dieu, c'est lui qui va tout diriger. Si on veut que ça se produise en France, on peut le faire. En Belgique aussi, malgré qu'il y a les frites. Alors, l'absolue cachette de Dieu, c'est le Golgotha. C'est tout perdre en Christ pour tout retrouver en Christ. Les amis, Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Mais ça, c'est vraiment. Mais on croit que c'est hors des églises, hein. Minute, hein. Ça rentre beaucoup le monde dans les églises, je trouve, hein. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, ben oui, hein. Sur l'étiquette, hein. Je vous dis que cette façade-là, on l'a décapé. On va refaire une nouvelle façade. Mais il y a des gens, c'est comme ça. Ils deviennent chrétiens, on va tirer la façade en remis une autre. Ce n'est pas une question de façade pour Jésus. C'est une question d'être profond. Alors, chapitre 2, verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dépouillement du corps de la chair. Le mot dépouiller, c'est du vieux français. Ça veut dire tirer les pouilles, les vieux vêtements sales. Dépouiller, c'est tirer les vieux vêtements. Pour en remettre des propres. Vous vous rappelez hier ce que le frère a expliqué pour son mariage sous son blanc. C'était le vêtement neuf, hein, en face de Christ, de l'épouse. Eh bien, pratiquement, c'est ça. Il faut être dépouillé pour être revêtu de Christ. C'est ça qui est là. Être circoncis dans l'âme, dans le cœur. Je n'existe plus pour moi, mais pour toi, mon Dieu. Avec toi, par toi, en toi. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Il n'y a pas besoin de rabbin, il suffit d'avoir la foi en Christ. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous parlerons du baptême. Parce que si c'est mal compris, on n'a rien compris. Ça sera pour demain. Alors, comment reconnaître Dieu dans ma destinée ? Comment reconnaître ? Le jour que je sais que je suis ténèbres, que ma vie n'a pas de sens, et que je m'abandonne à Christ. Plus que ça, je me laisse saisir par Christ. Beaucoup de chrétiens disent, je ne vois pas comment je pourrais me donner entièrement à Christ. N'en ai pas la force, je ne vois pas le courage. Mais ce n'est pas le problème d'avoir la force. C'est le problème de se laisser saisir. Quand on se marie, est-ce que je vais avoir la force tous les jours d'aimer ma femme? Le jour au fur et à mesure que je vais voir tous ses défauts. Et puis la routine, et mes défauts avec. Vous croyez que j'aurai la force d'aimer tous les jours? Mais si je suis saisi par l'amour, j'aime ma femme malgré moi. Il n'y a rien à faire, je suis attaché à elle. Je suis attaché à elle. Parce que j'ai été saisi par l'amour. Et l'amour, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas une création de l'homme. On n'en est pas capable de l'amour, nous. Ok? Alors, ce Jésus de Nazareth qui veut nous décaper, c'est clair, il sait que nous ne sommes pas capables d'aimer. Jean chapitre 6. Le Dieu caché, le Dieu qu'on ne trouve pas dans les tabernacles des églises, qu'on ne trouve pas sur les Golgotha, les calvaires, qu'on ne trouve pas dans les grandes réunions où on met la musique à fond, à fond, à fond. Le Dieu, Jésus, qu'on a trouvé tout seul dans sa chambre, face à face, et se laisser complètement prendre par lui. Alors après, on peut aller dans les réunions avec les autres chrétiens. Et pas faire semblant. Jean chapitre 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais la question qui était avant, elle l'est. C'est une question terrible. Parce que les personnes demandent, ils lui disent, verset 28, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils sont préoccupés de faire les œuvres de Dieu. Pour plaire à Dieu, un peu comme Caïn. Ils n'attendent pas la grâce, ils veulent des mérites. Ils ont été éduqués dans l'œuvre des mérites, eux-mêmes ils n'y seraient pas éduqués, c'est dans l'instinct de l'homme. C'est venu d'Adam et Ève, du péché ça. Alors, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oh, ben, Jésus va répondre tout à fait à côté, il ne va jamais marcher dans la combine, parce qu'il n'est pas venu pour... cautionner la combine des hommes, du péché, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Ah, tiens, l'œuvre de Dieu. Votre œuvre, moi, l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, la foi en Christ. C'est la seule œuvre qui compte. Ça démystifie cette agitation qu'il y a sur la terre, cet affairisme. Affairisme, affaire du diable. Ça démystifie. Vous courez comme des lapins tout le temps, vous êtes toujours occupés. Attention, hein. Moi, je suis tombé là-dedans aussi. Hein. Avec mon tempérament, où c'est tout et c'est rien, c'est tout ou c'est rien, ben, ma femme en a bavé. Hein. Elle a souffert hein, de son mari. Eh bien, pratiquement... Parfois, on aime le Seigneur et le diable met la main dans le dos et vas-y, va de l'avant. Fais tout ce que tu as dans ton cœur. Vas-y. On peut même trouver des versets pour se donner raison. Hein. Vas-y. Puis on tombe sur sa figure, on se casse les dents. Parce que nos œuvres ne mènent nulle part. Regardons l'œuvre de Dieu. Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Donc ils veulent des miracles. Dernièrement, un infirmier, qui est déjà venu 2-3 fois au culte, qui est venu à l'exposition qu'on avait fait sur Luther, est venu aux conférences. Je visite un chrétien à côté de chez lui, qui est malade, et puis il est dehors, il y a des personnes, et puis il me dit, vous prierez pour que Dieu me fasse un signe. C'est un homme de 39-40 ans, un très bel homme, très gentil, hein? Et qui cherche hein, Dieu. Il faut que Dieu lui fasse un signe. Depuis que sa petite fille est née, sa petite fille là, une jolie petite poupée de magnifique, elle lui dit qu'elle veut Jésus, qu'elle veut connaître Jésus. Il me l'a déjà dit au moins 5 ou 10 fois. C'est pas un signe ça? Et lui, à 40 ans, devient con, parce qu'il n'est pas comme un enfant. S'il regarde son enfant, qui se laisse enseigner par ce qui est petit. Il faut se laisser enseigner par ce qui est petit. Pas par moi-même. Je suis dans la grâce, je suis un adulte. Il me faut un signe de Dieu. Et sa petite fille cherche Jésus de Nazareth depuis qu'elle a ouvert la bouche. Il a une perle dans les mains. et il fait le cochon. Quand même, Jésus est patient. Je ne donnerai pas la perle au cochon, mais c'est qu'il connaît l'homme, hein, pour dire ça. Il faut prier. Moi, je ne peux pas m'empêcher de prier pour cet homme. Qu'il ouvre les yeux, qu'il entende ce que sa fille lui dit. Il a reçu une Bible de moi, mais qu'il la lise, et qu'il la lise à sa petite fille. Mes amis, nous passons à côté de l'œuvre de Dieu tous les jours, hein, si nous écoutons notre chair. Hein. Alors, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus. Mais, par notre chair, nous cherchons à faire des œuvres pour Dieu. Et que répond encore Jésus dans ce chapitre? Chapitre 6 de Jean, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est tellement fort, c'est tellement dur à entendre, qu'on ne supporte pas ça. On fait une mixture, on l'arrange. Mais clairement, c'est mis, l'humain ne sert de rien. C'est l'esprit divin qui donne la vie. Les amis, il faut faire attention que l'Esprit Saint puisse parler dans votre église, dans votre vie, dans votre chambre, à genoux, dans votre jardin, dans l'auto, que l'Esprit Saint puisse vous parler. N'attendez pas qu'il vous parle seulement au culte. Alors c'est foutu. Ce sera les 5 dernières minutes, vous aurez réchauffé tout doucement le moteur, et les 5 dernières minutes, oh oui, j'ai quand même, oui, c'était bien, j'ai quand même gardé quelque chose. Mais le dimanche d'après, j'ai déjà tout enterré jusqu'à ce moment-là. Ça ne va pas. Au verset 65, l'œuvre de Dieu est aussi définie. C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nous ne pouvons pas venir à Jésus et à la vie éternelle si ce n'est donné par le Père. C'est tout à fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est cachée. Est-ce que je vais me laisser faire? Est-ce que je vais laisser l'œuvre de Dieu se dévoiler en moi? Provoquant Jésus, hein. Pas besoin de cathédrale, de mosquée, de synagogue, de temple, de basilique, d'armée, de coffre en banque, hein. C'est déconcertant le Dieu de Jésus, hein. Alors, où serait donc bien ce Dieu caché? Ah. J'ai parlé tout à l'heure de, hein, si je devais aimer par mes forces ma femme toute ma vie. Et elle m'aimait, c'est trop pire, hein, parce qu'elle m'aurait déjà plaqué 2000 fois. Alors, je n'arrêtais pas, chaque fois que j'étais quelque part, de ramener quelqu'un à la maison en plus. On en remplissait la maison tout le temps. Elle pétait les plombs. Jusqu'au jour où Bénédicte a dit, il n'y a rien à faire. Hein. Bénédicte, avec ma femme, tu veux notre sanctification. Je me suis dit, mais je vais vous dire, c'est pas moi qui veux la sanctification. C'est pas moi, on est incapable. Regardons pour le couple, Éphésiens. Qu'est-ce qu'on peut dire du couple? Le couple est quelque chose qui est donné. Je ne parle pas contre les célibataires, je ne parle pas contre les divorcés. Hein. Je ne peux pas tout dire en même temps tous les jours. Alors, Éphésiens 5, il me semble que le couple, l'homme et la femme sont appelés à l'amour entre eux, comme il y a l'amour entre le Père et le Fils. L'amour entre le Père et le Fils est agi par le Saint-Esprit. La réciprocité entre le Père et le Fils engage leur don complet du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. Le mariage sous l'œuvre de l'Esprit-Saint engage l'homme complètement pour sa femme et engage complètement la femme pour son mari. C'est une œuvre de Dieu. Pour qu'on voie sur terre une image partielle, un morceau du puzzle, de l'image du Dieu caché. Le couple qui fonctionne dans l'Esprit Saint est une image partielle, bien sûr, et provisoire et temporaire, de l'image de ce qui se passe entre le Père et le Fils. Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 22. Ça, c'est dans beaucoup d'églises, on n'aime plus entendre ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari et à toutes choses. Assez rébarbatif à l'heure d'aujourd'hui. Verset 25, mais pourtant ça a été dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Ça, c'est aussi rébarbatif pour les hommes, hein? Parce que si un homme, quand il va travailler, qui circule et qui regarde toutes les femmes, qui regarde des films porno, qui va à la télévision, sur Internet, parce qu'il y en a plein, c'est une gangrène, il finira par l'adultère. Si en plus on use de la sorcellerie, et tout ça, parce qu'il y en a plein, non, on retourne à tout l'occultisme, partout, surtout pour l'amour. Pratiquement, c'est une catastrophe. Hein? Mais regardez l'amour que Dieu veut. C'est un amour entier du mari, comme le Christ l'a pour son Église. C'est que l'homme se livre, et le mot en grec c'est « il se vend ». Il ne s'appartient plus à lui-même. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ça veut dire que le mari qui aime vraiment sa femme partage la même parole. Un homme qui oublie de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, et qui ne s'arrange pas pour que le couple grandisse dans la parole, il n'a pas besoin d'aller au culte pour dire qu'il aime Christ. Hein. Il est en contradiction totale. Et il ne va pas espérer que le pasteur va réparer, ou sa femme, réparer les morceaux de vaisselle cassés. Hein, parce que c'est un couple qui tombera à terre. Il faut que le mari prie pour sa femme comme le Christ est monté tous les jours dans la montagne, prier pour ses disciples. Il faut qu'il consacre du temps à la prière dans l'ombre. C'est ça que je vous dis dans l'Église, les 10, 11e de l'iceberg, qu'on ne les voit pas. Dans l'ombre, l'Église, c'est tout ce qui est caché, avant tout ce qui apparaît. Et vous voyez, le mari qui aime sa femme, il prie. Moi, j'ai une femme magnifique, et bien pratiquement, combien de fois elle a été attaquée? C'était horrible. Et on ne serait pas restés ensemble. Je ne m'en vante pas. Je souffrais tellement, j'ai passé des nuits à prier. Et pas pour redormir la journée, hein. Des nuits à prier. Et pourquoi? C'était nécessaire. Le mari chrétien doit se consacrer dans la prière, à la supplication, à l'intercession pour son épouse. Rappelez-vous que Satan a commencé par attaquer Ève, hein. Vous pouvez flinguer un homme comme vous voulez, démolissez son épouse, après vous l'aurez quand même, il sera à terre. Donc il faut que la femme tienne bien le coup. Pour qu'elle tienne bien le coup, il faut le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de mari assez malin que pour la femme, que sa femme reste debout. Et ce qui a sanctifié par la parole, l'avoir purifié par le baptême d'eau. Eh oui. On reverra la question du baptême demain, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je vais un peu plus loin tout de suite, 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Donc le mystère chez les catholiques, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Bon, c'est chez nous, mysterion en grec, c'est une réalité divine, dévoilé selon la foi qu'on a par Dieu, hein, pas par notre intelligence. C'est une réalité divine qui nous est donnée et qui va nous être éclaircie, dévoilée dans la foi. Et donc, c'est un cadeau de Dieu, c'est l'effet de la grâce de comprendre les choses de Dieu alors que par la chair on ne les comprend pas. Eh bien, le mystère de l'homme et de la femme, c'est dans un rapport d'analogie, le même rapport entre Christ et l'Église. Le Christ a donné toute sa vie et s'est investi, selon les Écritures, pour sauver et donner le Saint-Esprit à son Église, et l'a préparé au mariage, au banquet. Eh bien, dans le mariage, l'homme et la femme doivent vivre la même consécration, le même rapport que Christ et l'Église. C'est pas un petit programme, hein. Et c'est même pas un programme humain, c'est pas possible. C'est un programme divin. Il y a parmi vous plusieurs célibataires, et je vous le dis, si un jour vous vous mariez, ne faites pas un programme humain, hein. Tout chrétien que vous êtes, ça peut arriver, hein. Les chrétiens qui sont trop humains, il y en a. Et puis après, qu'il y ait eu divorce dans les églises. Et pratiquement, je n'accuse personne, c'est souvent par superficialité, méconnaissance de la profondeur de l'amour conjugal, parce qu'on n'y a pas été préparé dans la prière et l'adoration, qu'on se casse le nez. Le mystère de l'amour humain, c'est quand l'homme et la femme sont unis en Christ ensemble, Dieu est caché et entre deux. C'est comme dans une corde. Une corde avec deux filaments, on ne fait pas une corde, ça se défait tout le temps. Il en faut trois, dans le livre des Proverbes. La femme, l'homme et Christ. Les amis, j'avais un office, j'avais préparé au mariage avec sa fille, avec une jeune fille qui était d'une église pentecôtiste. Et puis en faisant toutes les préparations, je me rendais compte que zéro. Ça ne m'allait pas. Alors j'ai dit, je ne fais pas de mariage, je ne prêche pas, je ne fais rien. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je le montre. Je n'ai rien contre vous, mais ce n'est pas un mariage, je ne peux pas cautionner ça. Autrement, je serais resté curé catholique. Pour faire des mariages bidons, je pouvais rester curé catholique. Alors, j'ai dit, chercher quelqu'un d'autre, je donne des adresses de pasteur, et il se trouve qu'il y en a toujours des disponibles, hein, pour les mariages. Alors, pratiquement, ce qui se passe, par gentillesse, et pratiquement, ils ne m'ont même pas posé la question pourquoi je ne le faisais pas. Ça m'étonnait. Et alors, ils se sont mariés. Et un mois et demi après, la fille quittait pour partir avec une copine homosexuelle. Mais, quand j'avais refusé de prêcher, tout de même, ils tenaient à ce que je dise quelque chose. Et j'ai pris ce verset dans Proverbe avec la corde qu'il faut trois brins. S'il n'y en a que deux, c'est pas une corde, ça se défait et ça casse. Je voulais dire ce que Dieu voulait leur dire. S'il y avait encore une toute petite chance qu'ils écoutent, qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Ne jouez pas. On ne réussit pas en jouant avec la parole de Dieu. La parole nous dit que le rapport entre Christ et l'Église, on le voit de manière analogique, dans le rapport entre l'homme et la femme. La puissance du Saint-Esprit doit unir deux pécheurs, sauvés par grâce. Et ça, le couple peut tenir alors. Donc Dieu caché, un couple chrétien qui aime Christ et qui le sert ensemble, on peut dire que Dieu est caché en eux. Si quelqu'un les regarde, il va reconnaître que ça se passe pas comme chez les autres. Tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est de l'archéologie sociologique. Ils vont rester 50 ans entre eux. D'habitude, on ne reste que 2 ans entre nous. 50 ans ? 60 ans ensemble ? C'est pas possible. C'est des ptérodactyles, c'est des dinosaures, ceux-là. Non ! Ce qui est divin porte la trace de l'éternité. Yavol, compris ? Alors, l'Église. Éphésiens chapitre 2. Pourquoi le couple est tellement détruit aujourd'hui? Pourquoi le couple par Satan est tellement détruit? Mais parce qu'il ne faut pas qu'on voie l'image de Christ à l'état vivant sur la terre. C'est tout. Qu'on ne voie pas l'image de la Trinité incarnée. Faut que ça soit le désert ravagé. Comme en Syrie, en Irak, allez, zoom, tout à néant au niveau spirituel. Donc il n'y a rien à faire. C'est sacré le mariage. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Donc étrangers à Dieu, gens du dehors, hors de Dieu, de la Trinité de Dieu. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, donc leur enseignement, et des prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament aussi. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Psaume 118, n'est-ce pas, versets 20 et 22. Hein, pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc l'Église, ce n'est pas un tas de pierres. C'est sûr qu'en Belgique, en France, tout le bazar, les églises, c'est des tas de pierres. J'ai été en Bulgarie pendant 8-10 jours pour me mettre au service de chrétiens. Et bien, pratiquement, c'est les belles églises avec le bulbe, là, en oignon. C'est ça, les églises. Les beaux chants, etc., les peintures sur les murs. Complètement faux. L'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si le premier christianisme a voulu vivre ça, comment se fait-il que ça a changé? Quand Constantin, en 313, a dit que l'Église serait officiellement reconnue. Il faut savoir que tout l'Empire était avec des autoroutes, ce qu'on appelle les voies romaines. Et à tous les endroits stratégiques, une belle montagne, un beau paysage, on mettait un temple de Mercure, de Jupiter. Et en bas, on mettait de l'hôtellerie, puis un petit chemin pour les pèlerinages, aller faire les dons aux divinités. Et là-bas, on rencontrait des prêtres habillés avec à peu près les mêmes habits que les prêtres catholiques. Et quand les gens circulaient, ben, ils avaient des lieux de repère pour leurs divinités. À partir du moment où on dit à tous ces gens-là, vous serez chrétiens par le baptême d'eau. Ils se croient chrétiens, mais ils ont toujours besoin de signes visibles. Donc, au lieu d'avoir le temple païen, il faudra un temple avec une croix dessus. Et si, dans notre village, à 2 kilomètres de chez nous, il y a un hôtel, c'est Minerve ou Mercure, là, la tour ? Minerve. Ils ont tourné l'hôtel pour que les gens ne voient plus Minerve, ils ont fait une croix de l'autre côté. L'hôtel de Minerve, à 2 kilomètres de chez nous, est devenu un hôtel chrétien. Et à combien de places je vois ça? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, on a fait du déguisement. Mais les gens sont restés. Pour voir Dieu, il faut voir les signes visibles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En 315, Cyprien de Carthage, puisque Dieu est si invisible, on va faire des choses visibles. On a inventé le prêtre. En 315, Cyprien de Carthage invente le prêtre. Dans l'Épître aux Hébreux, le sacerdoce de Christ est intransmissible. Il n'y a pas de sacerdoce après Jésus-Christ. Il est le seul grand prêtre dans les cieux pour nous. Eh bien, en 315, Saint Cyprien de Carthage, pour l'Église catholique, c'est saint, a inventé le prêtre. Après, il y a Augustin, avec des sacrements. Ce n'est pas encore le mot, mais c'est ça. Le baptême qui rend chrétien, le prêtre qui fait l'absolution, il donne le salut, la vie éternelle, etc. Et de là, de fil en aiguille, on a changé toute la religion chrétienne en signes visibles et magiques. Alors que l'Église de Christ, c'est un temple saint spirituel. C'est une habitation de Dieu en esprit. Faites attention à vous, parce que demain, on va parler du baptême. Et on va parler des 7 églises Apocalypse. Vous allez voir qu'à la fin du 1er siècle, il y avait déjà un sacré gâchis. Mais pourtant, Christ aimait les 7 églises. Il leur a parlé à toutes les 7. Comme il parle aux églises aujourd'hui, le Christ veut sanctifier son église et la laver par sa parole. Demain, le baptême et les églises d'Apocalypse et le témoignage de 5 personnes. Que Dieu vous bénisse.